Oui, la question c'est pourquoi est-ce qu'on quitte un pays comme la Colombie, qui entre parenthèses est un pays absolument magnifique, et sans doute de mon point de vue le pays le plus beau d'Amérique latine. Je ne dis pas ça parce que j'ai un Colombien à mes côtés, mais parce que je le pense réellement. Pourquoi est-ce que les Colombiens quittent leur pays? Pourquoi est-ce que Nelson est un réfugié politique? Alors on a quelques éléments pour comprendre ce qui se passe. Vous savez qu'il y a eu un long, il y a toujours d'ailleurs un conflit armé interne en Colombie, qui a commencé, on peut le faire commencer en 1948. C'est un conflit qui est aussi vieux que le conflit israélo-palestinien, qui commence la même année. Et il n'y a pas très longtemps, à la suite de la démobilisation d'une des guérillas colombiennes, des forces armées révolutionnaires de Colombie, du FARC, un rapport a été établi par une commission de la vérité. Et je vais vous donner les chiffres que nous indique cette commission de la vérité. C'est un rapport préliminaire. Il a été publié le 28 juin 2022. Il fait 896 pages. Et il nous dit que entre 1985 et 2018, il y a eu en Colombie 450 664 morts. 450 000, plus de 450 000 morts. 121 768 disparus. Souvenez-vous, ce qui pour nous est la référence en matière de disparus en Amérique latine, c'est l'Argentine. C'est 30 000. En Colombie, 121 768. 7 700 000 déplacés. D'autant qu'à ces chiffres, il faut rajouter une première période qui n'est pas citée dans ce rapport, qui est ce qu'on appelle la période de la violencia, entre 1948 et 1954, qui a fait 200 000 morts, environ 200 000 morts. C'est-à-dire qu'on est à 650 000, 700 000, 800 000 morts en Colombie. Le paradoxe, c'est que la Colombie a toujours été considérée comme une démocratie. Il n'y a jamais eu de dictature en Colombie, mais néanmoins, c'est le pays où le massacre a été le plus important. Ce rapport de juin 2022, il nous dit également qu'il fait une petite comptabilité assez macabre, qui sont les responsables des morts en Colombie. Donc les guérillas, puisqu'il y a eu plusieurs guérillas, il y en a encore en œuvre, sont responsables pour 27% des morts colombiennes. Les forces de l'ordre, 12%. Les forces de l'ordre, tranquille, peinard, 12%, c'est pas terrible, c'est des bavures. Et puis les paramilitaires, 45%. Et moi qui suis un peu vicieux, je me permets de mettre ensemble les militaires et les paramilitaires, et là on arrive à 57%. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Alors, les paramilitaires, premier point, en 1962, vous avez un conseiller américain, états-unien, qui s'appelle le général William Yarborough, qui a conseillé au gouvernement colombien de créer des groupes paramilitaires. C'est évidemment très important de s'arrêter un instant sur ce que sont les paramilitaires. On a souvent considéré, en particulier dans nos médias, qu'il s'agissait d'acteurs autonomes, d'électrons libres. En réalité, non. Depuis les années 60, le paramilitarisme, il est complètement enkysté au cœur de l'État colombien. Depuis 1965, vous avez une loi qui autorisait l'organisation de patrouilles de surveillance civile dans les campagnes. Hein, une loi, officiellement. Elle a été transformée en législation permanente en 1968, je vous passe le numéro des décrets, et ça a donné un fondement légal pour l'organisation de ce qu'on a appelé les autodéfenses. Et il faudra attendre un quart de siècle pour que la Cour suprême de justice, en 1989, déclare inconstitutionnel ces groupes paramilitaires. Bon. À la limite, on peut considérer que ben, ça va mieux, mais non. Parce qu'immédiatement derrière, en février 1994, il y a un statut de surveillance et de sécurité privée qui légalise à nouveau le paramilitarisme. Et les autorités militaires et policières sont à ce moment-là censées exercer un contrôle sur les activités de ces organisations, dont une va apparaître qui va être extrêmement importante, qu'on appelle les conviviales. Coopératives
de sécurité privée.
Voilà, coopératives de sécurité privée, dont l'un des promoteurs va être celui qui, à l'époque, est le gouverneur dans le local, qui s'appelle Alvaro Uribe Vélez, qui va devenir président de Colombia. Et à partir de 1996, la période où Alvaro Vélez est en politique, ces conviviales vont finir par se fondre avec les autodéfenses unies de Colombie, qui sont les paramilitaires. On a donc en réalité une division du travail entre une armée régulière, qui est promise à des opérations militaires classiques, et puis des corps de ce qu'on va appeler de supplétifs, chargés de terroriser la population et de faire la basse besogne. Contrairement à ce qu'on a souvent raconté dans les médias, les paramilitaires ne se sont jamais opposés à la guérilla. Les paramilitaires ont désarticulé le mouvement social par le meurtre et par l'exil. Et en réalité, ils n'ont pas pris les armes contre l'État, même quand on les a présentés comme des gens hors de l'État, mais pour défendre l'État. Il y a donc, dans le phénomène du paramilitarisme, une responsabilité historique de l'État. À tel point que, et je termine sur ce point, il y a dans l'armée colombienne 5 divisions, et on appelle les paramilitaires la 6e division. Et je termine sur cette introduction, avant de laisser la parole à notre ami Nelson. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'avoir des groupes paramilitaires, et pourquoi il est toujours nécessaire d'ailleurs d'avoir des groupes paramilitaires? Tout simplement parce que l'armée colombienne est en grande partie financée, entraînée, formée par les États-Unis. Et si vous avez une armée assassine, si vous avez une armée qui dérape un peu trop sur le respect des droits humains, il est évident que au Congrès des États-Unis, il y a des résistances, il y a des réticences. Et donc on a transféré le travail sale, la guerre sale, aux paramilitaires, de manière à ce que l'armée colombienne apparaisse comme relativement propre, comme dans tout combat armé, ce qui a permis, par exemple, à la fin des années 90, de mettre en place le plan Colombie, qui a été doté de 11 milliards de dollars par les États-Unis, pour un résultat d'ailleurs qui, entre parenthèses, est complètement nul s'il s'agissait de lutter contre le narcotrafic. Je finis sur deux exemples de ce qu'a été la mise en place de cette politique paramilitaire en Colombie. Il y a deux exemples qui sont emblématiques de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu d'abord l'extermination d'un parti politique, l'Union Patriotique. Très très vite, en 1985, le président conservateur de l'époque, Belisario Betancourt, décide que ce conflit armé n'a plus aucun sens et qu'il faudra en terminer. Il signe un accord de cessez-le-feu avec les FARC. La trêve est établie et le président Betancourt suggère, demande aux FARC de créer ou de s'insérer dans la vie démocratique en créant un parti politique qui va être créé par des gens des FARC qui redescendent de la montagne, qui laissent les armes, qui abandonnent les uniformes, avec des membres du Parti communiste, avec des membres d'un certain nombre de partis de gauche. Cette Union patriotique a été fondée en 1985. Aux législatives de 1986, elle se transforme en la troisième force politique du pays. Elle a 14 représentants au Congrès, qui sont élus, 5 sénateurs et 9 députés. Elle a 23 mairies de villes intermédiaires, des villes importantes, et va se mettre en place immédiatement un plan d'extermination. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de 4000 morts. Les enquêtes sont en train de s'approfondir. Et on est maintenant sur un chiffre de 6000 morts. Et parmi les gens qui ont été assassinés, alors il y a eu le plan Bal Rouge, Baile Rojo. Vous avez eu 2 candidats à la présidence, 3 sénateurs, 3 députés, 6 députés départementaux, 89 conseillers municipaux, 9 maires, des centaines de candidats locaux. Ça a été le massacre d'un parti politique. C'est une spécificité de la Colombie. Et puis vous avez le deuxième exemple symptomatique de ce qu'est la Colombie, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Les faux positifs, là encore, je vais très vite, parce que peut-être d'ailleurs que Nelson voulait en parler. Ce sont des pauvres qu'on a été chargés dans les barrios marginales, les quartiers marginaux des villes colombiennes, à qui l'on a promis du travail, à qui l'on a promis une activité, qu'on a embarqué, qu'on a emmené, qu'on a assassiné et qu'on a revêtu d'un costume de guérillero, d'un uniforme de guérillero, pour faire croire qu'ils avaient été tués en combat. De sorte que les militaires, grâce à ceci, gonflaient des chiffres, permettaient de voir que la politique de sécurité démocratique du président Gustavo Uribe fonctionnait, et par ailleurs, avaient droit à des récompenses, avec des permissions, avec des primes, etc. On a maintenant à peu près, on a des chiffres aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ils peuvent encore augmenter grâce à la justice spéciale pour la paix. Il y a eu 6402, 6500 jeunes hommes qui ont été assassinés dans ces conditions en Colombie. Voilà, en gros, on a le contexte, et du coup, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi certains d'entre les Colombiens ont dû partir, quitter le pays. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je précise également que les guérillas ne sont pas parfaites et qu'il y a eu un certain nombre de crimes et d'exactions commises par les guérillas. Juste, alors sur ce passage du Darien, juste 2 chiffres, parce qu'effectivement, vous voyez qu'on est pris à la gorge par le temps, on a des tas de choses à vous raconter. En 2022, il y a 251 personnes qui sont passées par cet endroit, qui est un endroit extrêmement dangereux, mortel. Et en 2023, 360 000. C'est-à-dire que c'est devenu un phénomène majeur pour les flux migratoires qui partent d'Afrique, d'Amérique du Sud, vers l'Amérique centrale et les États-Unis.
Et tous ces passages sont contrôlés par El Clan del Golfo, qui est un clan de paramilitaires et de narcotrafiquants qui fait payer très cher les passages.